Cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 3 mars 1987.
Nous avions vu la dernière fois comment le fait même de ce développement si monstrueux de l'économie, je crois qu'on peut dire si monstrueux dans l'ordre quantitatif, ça met, je crois, la famille dans une situation limite. Presque le sens d'un pays, ça on le verra après, pouvait à la fois, comme toujours, toute situation critique, permet une certaine libération, parce qu'on est obligé de tout reprendre à la racine, et peut aussi occasionner une chute, donc une disparition. Je crois que ce que nous voyons aujourd'hui, si on est un peu attentif à cela, ce serait intéressant du reste que des gens très qualifiés puissent bien montrer ce point de vue économique dans ce qu'il a de développement un peu monstrueux. Ça vit monstrueux. Quand il n'y a plus de finalité, c'est la cause matérielle qui l'emporte. C'est l'aspect quantitatif. Voilà, ça devient monstrueux parce qu'il n'y a plus de finalité. Le monstre, c'est quand le développement du corps devient tel que l'âme étouffe. Alors ça, c'est monstrueux. C'est quand la cause formelle est comme dépassée par le développement de la cause matérielle. Alors, transposer ça dans le domaine économique. Le domaine économique, c'est l'aspect temporel. C'est l'aspect des biens temporels. Quand cet aspect des biens temporels devient tellement gigantesque que la finalité de la famille disparaît, on est en situation limite. Cette situation limite, alors, où, de fait, fait que la famille sombre. Et c'est vrai, c'est ce que nous constatons. Et on le constate jusque dans cette répercussion de certaines lois, au moins pour la France, qui font que, économiquement, c'est plus avantageux de vivre indépendamment du mariage que dans le mariage. Ce qui est monstrueux. Quoi qu'un État qui fait ça, il a signé sa perte. Oh, de fait, on y est. On est dans cette condition-là. Alors, ça montre bien que l'État, à la place de soutenir la famille, fait que la famille tend à disparaître. À côté de ce développement économique, mettez aussi toutes les recherches d'ordre biologique d'aujourd'hui. Je dis ça, c'est pour que nous comprenions mieux le problème qui va se poser. Le développement biologique tend à supprimer aussi l'unité de l'amour qui faisait le foyer, c'est-à-dire le lien entre la fécondité et l'amour. On essaie de séparer l'efficacité, source de l'enfant, de l'amour conjugal, en voyant qu'il y a une possibilité où de la mère célibataire, et la mère célibataire doit pouvoir être aussi bien mère que n'importe quel autre. Vous voyez, donc là encore, on supprime ce qu'il y a d'original au foyer, au couple. C'est des deux côtés, du côté économique et du côté biologique. On essaie de faire que le n'est plus son originalité. Économiquement et biologiquement, ce sont les attaques d'aujourd'hui qui vont très loin et donc qui mettent vraiment, je crois, la famille dans une situation limite. Donc, l'intention, c'est toujours très difficile de saisir les intentions de ces choses-là. Regardons le fait sans faire un procédé d'intention. Le fait, c'est que on veut faire passer devant l'individu par rapport au couple. Alors, nous devrions philosophiquement répondre à cela. Et comment répondre philosophiquement à cela? La philosophie étant au service de la famille. Une vraie philosophie est au service de l'homme. Et une vraie philosophie politique est au service de la famille. C'est-à-dire, nous devons, je crois, redonner aujourd'hui le sens qu'Aristote, de son temps, avait déjà dit, mais que nous devons aller beaucoup plus loin qu'Aristote. D'une part, l'enracinement naturel de la famille. Donc, montrer que la famille est la communauté fondamentale. La communauté naturelle. On va y revenir. Hein. C'est le premier point, je crois. Et le second point, revendiquer la famille doit, au niveau politique, revendiquer son droit premier par rapport à ce que représente la mère célibataire. Les individus séparés, et ceci grâce à l'éducation, et ceci par rapport à l'éducation. Je crois que c'est les deux points. Et si on arrive à montrer ces deux points, cette crise doit nous permettre d'avoir une conception beaucoup plus profonde de ce qu'est la famille. Le philosophe ne peut pas faire les résultats, bien que ce soit une philosophie pratique. On doit aider les hommes à aller jusqu'au bout de cette exigence pratique. Mais la philosophie ne remplace pas l'individu. C'est l'individu et c'est le couple qui doit prendre ça en charge. Le philosophe doit être là au service du couple. Il doit là aider le couple à découvrir cela. Donc, je crois que la situation limite devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui doit permettre une intelligence plus profonde de ce qu'est la famille. Alors, essayons de voir cela. Cet allègement de l'aspect économique remet en pleine lumière la grandeur de l'amour de l'époux et d'épouse. Le foyer repose premièrement sur cet amour. Mais l'enracinement économique n'est plus premier comme du temps d'Hésiode. Ça existe bien encore chez certains individus. Qui demeure du reste souvent vieux garçon, assez longtemps. Parce que si vous regardez l'enracinement économique aujourd'hui, avant de vous marier, je crois qu'on attend assez longtemps. C'est encore des organes témoins d'un âge révolu. Et ça existe, c'est évident que ça existe. C'est pas du tout. Et ça existera tout le temps. C'est le primat de la causalité matérielle. Et le primat de la causalité matérielle existera toujours. Mais c'est pas là-dessus qu'on comprend le renouveau. Le renouveau doit se comprendre du côté de la finalité. Et pas du côté de la cause matérielle. La cause matérielle est toujours en retard. sur les alliances très curieuses qu'il y a avec le traditionnalisme et la cause matérielle. Les traditionalistes très vite tombent dans la cause matérielle s'ils ne sont pas très finalisés et s'ils n'acceptent pas le renouveau. C'est un phénomène très net et qu'au plan politique, on doit très fort sentir. Parce que c'est au plan politique que ça se voit le mieux. Ça existe au niveau éthique, mais au plan politique, ça existe très fort. Donc il faut comprendre que face à cette crise, on doit pouvoir mettre en pleine lumière, au plan philosophique, le primat de l'amour de l'époux et de l'époux. C'est cela qui fait le foyer. C'est cela qui fait le couple. Os de mes os, chair de ma chair. Vous voyez comme c'est curieux, hein? Parce que là, on rejoint la donnée traditionnelle, religieuse, dans toute sa pureté. Le premier couple, c'est le cri d'Adam. Os de mes os, chair de ma chair. Et donc, le choix libre à l'égard de quelqu'un qu'il regarde dans un œil nouveau. Et c'était bien évident, parce qu'elle n'existait pas avant. Au-delà de tous les préparatifs d'ordre temporel, tu avais bien préparé un petit Éden, hein? Tout était bien prêt. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est cette rencontre personnelle. Donc le choix mutuel et le choix personnel. Vous voyez, c'est très important au plan philosophique de souligner cela. Là, vous rejoignez ce qui, du côté éthique chrétienne, est mis en pleine lumière aujourd'hui. L'éthique chrétienne du mariage aujourd'hui n'est plus tout à fait la même que l'éthique chrétienne du Moyen-Âge. Et le grand tournant s'est fait avec le Concile de Trente. Ça, c'est important pour nous de le comprendre, puisque notre philosophie doit nous aider à mieux comprendre notre théologie. Et il y a une théologie du mariage qu'il faut faire aujourd'hui. Et cette théologie du mariage n'est pas la même que la théologie du mariage du Moyen-Âge. Mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau que le Saint-Père a très bien compris. Et que, d'une façon générale, tous ceux qui veulent être attentifs à cette conduite de l'Esprit-Saint sur l'Église comprennent. Et je dis bien que c'est le Concile de Trente qui est la clé. La gare de triage. Puisque au Concile de Trente, je vous l'ai déjà dit, les théologiens étaient divisés en deux. Les théologiens français gallicans, parce qu'ils sont toujours un peu gallicans, étaient pour que le choix des parents, la permission des parents pour le mariage, soit nécessaire pour que le mariage soit valide. Et les évêques, et les théologiens, je veux dire, les théologiens espagnols, thomistes, étaient pour la position de saint Thomas. La position de saint Thomas, c'était une position de théologien à partir du Concile de Trente, ça devient une position d'Église. Et l'Église libère le mariage chrétien du patrimoine parental. Et les théologiens espagnols disent que l'acceptation des parents ne fait pas partie de la validité du mariage. C'est très important, ça. Vous comprenez que c'est capital. C'est ça qui permet cette grande évolution qu'on voit aujourd'hui par rapport au sacrement de mariage. Et donc, à propos de la théologie du mariage. C'est pour ça que je dis c'est le tournant. Et c'est assez révolutionnaire, hein, comparativement à un aspect traditionnel du mariage. Et le Concile de Trente va très loin, là. C'est lui qui nous a donné la vraie théologie du mariage. Ah, donnant ce point de vue-là. Donc, ceci me semble capital pour une philosophie du mariage. Deuxième point sur lequel il faut insister pour une philosophie du mariage, l'enracinement naturel. Alors, ici, évidemment, c'est l'affrontement de la conception d'un choix personnel avec le point de vue de la nature. Donc on est là au cœur de toute l'éthique morale, de toute l'éthique, je veux dire personnelle.
Essentielle. Autrement dit,
l'amitié entre l'époux et l'épouse à toute espèce d'amitié. Dans une amitié ordinaire. Une amitié qui peut être très profonde, mais une amitié de personne à personne. Cette amitié reste libre. On se choisit, on dit qu'elle est éternelle. Mais au moment de la grande bagarre, on dit tout a changé, on est libres les uns et les autres. Et c'est pas un divorce. C'est tout simplement de comprendre que cette amitié implique de fait quelque chose de très personnel et que les conditions de temps et de lieu pouvant changer, il faut garder une certaine liberté. C'est contraire à l'amour personnel, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quelquefois mieux de reprendre sa liberté que de se bagarrer du matin au soir. Quand on se bagarre du matin au soir et que la bagarre va jusqu'à des menaces et des coups, on comprend qu'il faut des ecclésiastiques qui comprennent pas et qu'il y a des ecclésiastiques qui disent au fond oui, il y a la libération complète aujourd'hui. La morale de la personne va jusque-là. Il faut qu'on puisse répondre philosophiquement et pas seulement dire la foi. Et c'est pas commode. Et voyez, c'est ça la morale de la famille. Hein. C'est ça la philosophie de la famille. C'est le nœud là. Ça, je crois qu'on le pressent, qu'on le sent. Alors, comment regarder cela? Et vous voyez que dans une morale purement personnaliste, vous ne pouvez pas vous en tirer. Pour moi, c'est le grand échec de la morale purement personnaliste. C'est qu'elle ne peut pas s'en tirer. Parce que dans la morale personnaliste, poussée jusqu'au bout, Le choix libre demeure la mesure. La morale personnaliste ne respecte pas assez la finalité. Je crois que la finalité s'enracine dans la nature. C'est pas la personne qui nous fait découvrir la personnalité. Nous le verrons, ça. C'est la nature liée à l'esprit. Donc c'est l'âme. Là, il y a un très très gros problème, hein, que nous essaierons de voir au plan métaphysique. Et je le souligne maintenant. Pouvons-nous sauver la finalité uniquement en parlant de la personne? Ou sommes-nous obligés, pour redécouvrir la finalité et parler de la finalité d'un point de vue philosophique, de comprendre que la finalité vient de l'âme, et par l'âme, le lien avec la nature? Faites ce petit chose. C'est très difficile et c'est très important. Vous avez esprit, âme, corps. La nature, c'est l'âme et le corps. Et la personne, c'est l'esprit. Je schématise un peu, hein, mais c'est quand même ça. Et la personne, c'est le tout. Verrons toujours. Et l'âme, c'est la finalité. Posez le petit chèque comme ça, hein, pour vous demander dans quelle mesure c'est juste. Il faut quelquefois faire des petits schèmes pour bien comprendre. Il faut dépasser le schème, ensuite il faut penser. Mais le schème a quelque chose d'avantageux, c'est que ça expose, hein, ça monte la joue. Pouvons-nous, dans une morale purement personnaliste, sauver la finalité? Point d'interrogation. Hein? Premier point d'interrogation. Vous devez vous poser. Ou, pour sauver la finalité, faut-il toujours revenir à l'âme? Je vous ai dit, la grande tentation de la philosophie contemporaine, c'est de mettre entre parenthèses l'âme immortelle. On voudrait tellement ne plus parler de l'âme immortelle et ne parler que de la personne et de l'individu, c'est-à-dire du corps. On n'aurait plus que les deux. Alors on aurait la morale de la personne et puis on aurait la morale de la nature, qui est la morale du Moyen-Âge. Vous voyez, la division très subtile, mais qui est actuelle. On a vécu à Fribourg cela, au cœur du conseil de l'université. On l'a vécu, hein, il y a quelques années. C'était dramatique. Intellectuellement, c'était palpitant. Mais c'était dramatique, surtout dans ses conséquences. Alors ici, vous avez la morale traditionnelle de Saint Thomas. Et puis ici, morale de la personne, la morale contemporaine. Celle qui libère la personne de la nature. Je ne schématise pas beaucoup. Je crois que c'est vraiment ça. Et vous voyez que, alors c'est là où j'en arrive, hein, pour la philosophie de la famille. Si je reste dans ce schème de la morale personnaliste, coupée de la nature, puis-je encore montrer que le couple, que la morale de la famille, s'enracine dans la nature? Et donc implique quelque chose que je ne peux pas changer. Ou au contraire, cette morale de la personne va me libérer de la nature. Et dire que le couple d'aujourd'hui ne peut pas être celui d'avant. Et que donc, il doit être un couple dans lequel règne la liberté. Donc l'union libre. C'est cela, je crois, qu'il faut bien saisir. Voyez, la personne met en pleine lumière le problème de la liberté. Nous l'avons vu avec Hegel. Hein. Puisque la personne se définit par l'esprit, et l'esprit, c'est la liberté. C'est pas la finalité, c'est la liberté. C'est un amour libre. Mais quand je parle d'un amour de choix libre, je peux insister sur l'amour ou la liberté. La liberté, c'est le conditionnement de l'amour, et ce n'est pas l'amour. Et donc, j'insiste sur le conditionnement et non plus sur la finalité. Et je crois que lorsque j'ai une morale de la personne, j'aboutis, une morale de la personne qui s'oppose à la morale de la nature. Comprenez bien, une séparation entre les deux. Je ne peux plus fonder le caractère indissoluble du mariage, du couple. Et donc, je dois dire que tant que ça marche, mais quand ça marche plus, ben, il faut simplement se séparer. Parce que c'est la liberté de choix ou le choix libre qui commande tout. Puisqu'il n'y a plus d'enracinement dans la nature. Donc, vous voyez ça, c'est les rapports de la nature et de la personne au niveau philosophique qui commandent tout ce que nous allons dire. Et ça, je crois que c'est très important de le comprendre, hein, parce que si vous ne comprenez pas ça, tous les arguments que vous donnerez ne porteront pas. Alors, il faut montrer, nous montrons au plan métaphysique, et si je le rappelle, que je ne peux pas séparer, bien que je distingue le point de vue de la nature et le point de vue de la personne, je ne peux pas comprendre ce que c'est que la personne humaine sans faire appel à l'âme spirituelle, à l'âme qui implique intelligence et volonté. Autrement dit, je ne peux pas comprendre ce qu'est la personne humaine sans assumer dans cette personne l'analyse philosophique de l'âme, intelligence et volonté. Et cette âme, elle assume le corps. Et donc, la morale, la personne, implique tout le problème de l'âme spirituelle et de l'âme unie au corps. Et l'âme unie au corps, c'est la nature. Peu importe les mots, hein. Ce qu'il faut, c'est comprendre la réalité. La personne humaine ne peut pas se séparer de cet enracinement naturel. Et c'est par là que je comprends que je ne peux pas opposer morale personnaliste et morale naturaliste. Je dois comprendre que la morale de la personne humaine assume l'âme et le corps, implique l'âme et le corps. Et donc, l'union de l'époux et de l'épouse a quelque chose d'unique. C'est qu'elle implique le don des corps. Et c'est à cause du don des corps qu'il y a l'indissolubilité. Tant qu'il n'y a pas don des corps, comme dans toute amitié humaine, en dehors de l'amitié de l'époux et de l'épouse, il y a un désir de quelque chose qui doit demeurer. D'éternité, donc d'indissolubilité. Notre amitié est indissoluble. On dira toujours ça au point de départ. Toute grande amitié humaine dira: nous avons découvert ce que c'est unique. Personne ne sait aimer autant que nous nous aimons. C'est bien évident. Selon l'expérience de chacun, c'est toujours vrai. C'est du reste très touchant. Moi, ça me touche toujours beaucoup et ça m'émeut toujours beaucoup. Parce que chaque fois que vous découvrez un ami, c'est unique. Et donc personne ne sait aimer comme on s'aime. Et par le fait même, cet amour d'amitié est indissoluble. L'amitié de Jonathan et David, c'est indissoluble. C'est bien évident. Et c'est dit dans l'Écriture. Et on doit essayer de comprendre ce que c'est, parce que c'est dit dans l'Écriture. C'est magnifique. Si l'Écriture a mis ça, c'est pour nous en donner l'exemple. Et c'est pour que nous comprenions qu'il y a là quelque chose d'unique et qui est cause exemplaire de tout le reste. Vous voyez que il faut donc comprendre que l'amitié de l'époux et de l'épouse avec le don des corps et le don des corps est en vue ou implique la fécondité. J'ai dit les deux, en vue et implique. Parce que le don des corps est aussi pour exprimer l'amour d'amitié. C'est comme une double finalité. Une finalité immanente et une finalité extrinsèque. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut être attentif aux deux. Mais je ne peux pas séparer ces deux finalités. Si je pouvais les séparer, je dirais, voyez, il peut y avoir donc un don des corps indépendant de la fécondité. Et que l'amour d'amitié humain implique cela. Et par le fait même, je justifierais par là ce qu'il peut y avoir d'authentique dans certaines amitiés humaines qui veulent aller jusque-là. Et je dis non, je ne peux pas séparer le don des corps et la fécondité. Et qu'en définitive, le don des corps se justifie par le point de vue de la fécondité. C'est pas si commode que ça à bien prouver. Il faut aller jusqu'au bout du problème. Si on ne va pas jusqu'au bout du problème, on ne verra pas pourquoi le don des corps n'est-il pas justifié uniquement par l'amour d'amitié. Pour exprimer cet amour d'amitié. En disant, par le corps, nous avions vu la philosophie du corps, par le corps, le don intentionnel de l'âme va connaître un réalisme unique. Et donc, l'amour d'amitié, à cause du réalisme de l'amour, réclame ce don des corps. Et je dis non. Parce que lorsqu'il s'agit de l'amour d'amitié, on doit aimer l'autre dans ce qu'il a de meilleur. Donc c'est au nom même de l'amour d'amitié. Aimer l'autre dans ce qu'il a de meilleur. C'est donc l'aimer dans son aspect spirituel, sa capacité de don et de contemplation. Et non pas dans ce qu'il a de sensible. Le poids du sensible, le poids charnel, est tellement fort que si je prétends que l'amour d'amitié peut assumer ses dons des corps. Je n'aime plus l'autre pour ce qu'il a de meilleur. Et je tombe dans un point de vue esthétique. manifestation de l'amour finalise l'amour. Or, la manifestation de l'amour ne finalise pas l'amour. La manifestation de l'amour finalise un aspect esthétique de l'amour, et pas l'amour. Vous voyez, c'est la grande tentation de l'esthétisme à l'intérieur de l'amour. C'était la grande tentation de Platon. Et comme chez Platon, l'aspect beau et bien était intimement lié, la grande tentation grecque, le kalos kagagaton, était intimement lié. Je ne pouvais pas les séparer. Est-ce que ce n'est pas la nostalgie du paradis terrestre? Il se retrouve là. De faire passer devant la manifestation plus que l'amour. Vous voyez, ça il faut bien y réfléchir et bien le comprendre. Parce que c'est, je crois, la grande séduction d'aujourd'hui. Le platonisme. Et si vous êtes dans le platonisme ou le néo-platonisme, vous ne pouvez pas répondre. Il faut comprendre la différence entre la finalité et la séduction, entre le bien et le beau. Si vous ne voyez pas la différence entre les deux, vous ne pouvez pas répondre. Il faut donc faire cette distinction entre le bien et le beau et comprendre que l'aspect séduction, si importante que ce soit, ne peut pas finaliser. Si je suis finalisé par la séduction, je matérialise. Je dois au contraire dépasser l'aspect séduction pour découvrir la finalité. C'est cela qui permet de comprendre que le don des corps n'est légitime qu'en vue de la procréation. Autrement, je veux jouir du corps de l'autre pour la manifestation de l'amour et pour la jouissance. Parce que la manifestation de l'amour va conduire à la jouissance. Et à ce moment-là, à la place d'aimer l'autre pour lui-même, en définitive, je l'aime pour moi. La jouissance. Alors, une jouissance mutuelle, et c'est pour ça que là, ce sera la subtilité de la séduction. Je l'aime pour lui-même, puisque je désire que lui aussi jouisse, et que cette jouissance soit réciproque. Vous comprenez qu'il s'agisse d'une jouissance réciproque ou non réciproque, ça revient au même. Parce que je n'aime pas l'autre pour ce qu'il a de meilleur. Je l'aime pour un aspect d'immanence et non pas de découverte de l'au-delà de lui. C'est la fragilité de la jouissance. Toute jouissance demeure dans l'immanence. C'est nous-mêmes qui nous aimons plus que l'amour à l'égard de l'autre qui me dépasse. Je demeure donc dans l'immanence de la jouissance. Cette immanence est individuelle ou elle est à deux, ça revient au même. C'est toujours la jouissance. Je crois que c'est cela qu'on doit répondre et que c'est par là qu'on peut essayer de comprendre comment l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse a quelque chose d'unique. Et ce quelque chose d'unique est lié à la fécondité. Et donc exige l'indissolubilité de l'amour. Parce qu'il est inscrit dans la sensibilité du corps. Le corps individualise l'amour. Et parce qu'il individualise l'amour, il permet à cet amour personnel de s'individualiser de telle manière que je ne peux pas jouer et abandonner quelqu'un que j'ai aimé jusque-là. Je suis lié à lui. Et donc, je dois continuer de l'aimer dans son individualité.
Est-ce qu'on peut affirmer alors que l'indissolubilité n'est donc justifiée que par l'amour de l'autre, mais dans ce qu'il a de meilleur? C'est ça qu'on veut dire.
Tout à fait. Dans ce qu'il a de meilleur et dans ce qu'il a à la fois de plus personnel et de plus individuel. C'est les deux aspects qui se trouvent réunis dans l'amour de l'époux et de l'épouse. On aime l'époux pour ce qu'il a de meilleur et on l'aime en même temps en fonction du don de son corps en vue de la procréation. Et donc il y a toujours les deux finalités qui jouent. La finalité à l'intérieur de l'amour d'amitié et la finalité par rapport à l'enfant. Alors, je ne veux pas tarder, inscrivez vos questions et vos objections. Parce que là, on touche quelque chose qui me semble très important aujourd'hui. Essayez philosophiquement de comprendre comment le couple représente un amour de choix indissoluble. Et que cet amour de choix repose sur une morale de la personne. Sur une éthique de la personne.